Spectacle total et poignant, le Requiem du défi est donné à l'URSS ce samedi.
Avec comme invité Claude Martel qui va nous en parler. Bonjour Claude.
Bonjour François.
Vous êtes présidente, faut-il le rappeler, de l'association Alpes de Lumière et vous êtes très impliqué dans tout ce qui concerne le chant choral et la musique, notamment l'art lyrique dans le département des Alpes de Haute-Provence. C'est un événement qui va se produire à l'URSS le 8 juillet. C'est une création, le Requiem du défi, Verdi dans le ghetto de Térésine ou de Térésienstadt. Nous allons en parler avec vous-même. D'abord parler de cette œuvre majeure de Verdi. On connaît bien le compositeur d'opéra, on connaît moins le compositeur de musique religieuse.
Absolument, voilà, oui, une œuvre majeure du répertoire quand même, mais tellement monumentale qu'elle est peu souvent produite. C'est le problème, voilà, il faut un tel chœur, un tel orchestre et de tels solistes qu'on ne la donne pas assez souvent, malheureusement. Mais enfin, je pense quand même qu'elle est très très connue, même si elle est moins connue que les opéras de Verdi, et elle est très opératique. C'est un opéra religieux, en quelque sorte.
Voilà. Alors, un requiem, c'est une messe d'enterrement ou de mort, comme l'on veut, qui a été écrit par Verdi dans des conditions un petit peu particulières, en référence à un de ses grands amis.
Voilà, tout à fait. C'était un peu l'œuvre, et ça devait être l'œuvre de la fin de sa carrière, parce que ça venait après Aïda, dans l'opéra. Et il a écrit pour un de ses amis qui venait de mourir, le grand poète italien Alessandro Manzoni, qui était lui-même, comme Verdi, très engagé dans le processus de libération de l'Italie. Voilà, républicain et démocrate, on peut dire comme ça, et dans le Risorgimento. Voilà, et c'est la mort de Manzoni a bouleversé Verdi. Et c'est après ça qu'il a décidé d'écrire cette messe de Requiem, la Missa di Requiem.
Une messe magnifique et qui sera interprétée en 1944 dans des conditions très particulières en Tchécoslovaquie.
Voilà, c'est ce qui fait l'originalité de ce concert. C'est un concert théâtralisé, donc. C'est qu'il est donné dans des conditions où on ne l'entend jamais, c'est-à-dire dans le contexte d'une histoire vraie, qui s'est réellement passé donc au ghetto de Térésienstadt, ou Térésine en tchèque, et dans des conditions absolument dramatiques. C'est en 1944, au moment où les camps nazis commençaient à être libérés. Donc le chef du camp de Térésine savait plus ou moins que ça allait se produire, mais il ne savait pas très exactement quand. Et le requiem avait été monté dans des conditions qu'on peut imaginer absolument désastreuses, quoi, et dans des conditions psychologiques les pires qu'on puisse imaginer dans le contexte de ce camp, de ce ghetto juif, par un chef d'orchestre et chef de chœur, Raphaël Schechter. Ça c'est la vérité. Et à la fin de cette histoire, tout le monde est déporté à Auschwitz. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'un des prisonniers de Térésine, qui avait été déporté à Auschwitz ainsi que sa famille, Joseph Bohr, a réchappé d'Auschwitz et il a écrit en 1963 un livre qui s'appelle Le Requiem de Térésine, dont Gérard Solla a tiré cette pièce, cette dramatique qui s'appelle donc Le Requiem du défi.
Et que vous allez donner samedi dans un lieu magnifique qui domine le Luberon, qui est superbe, qui sera le fond du décor de ce Requiem, c'est bien sûr le Luberon et c'est l'amphithéâtre Marius, c'est au village de l'URSS en hauteur, dans un cadre merveilleux. C'est une œuvre qui est à la fois poignante d'abord musicalement, mais cette histoire que vous venez de raconter, Claude, c'est quelque chose qui fait frémir.
Ça fait frémir. Il y a eu récemment à la télévision une très bonne émission sur la musique dans les camps de la mort. C'est incroyable ce que les prisonniers ont pu produire comme musique, mais dans des conditions inimaginables. Je revois cette image à la télévision de ce prisonnier qui a écrit ça dans la chambre où les nazis découpaient leurs cadavres sur les tables de marbre ou de carrelage. Voilà, on peut imaginer ce que ça représente comme condition psychologique et ce que ça donne aussi d'espoir pour le rôle de l'art dans une vie et de la musique en particulier. Ben c'est un peu ça, Térésine. Alors le camp Térésine, on le sait, c'était le camp vitrine des nazis où étaient prisonniers la plupart beaucoup d'artistes. Robert Desnos y est mort et d'ailleurs il y a fait allusion dans la pièce. Bon, et les nazis profitaient de cette présence d'artistes, musiciens, solistes, chanteurs, gens de théâtre, pour monter des concerts qui servaient de vitrine lors des visites de la Croix-Rouge au camp de Térésine.
Et c'était aussi un divertissement pour les SS.
Les SS aimaient la musique. Hein. Les Allemands sont un peuple de musiciens, ça c'est évident. Ça leur plaisait pas. Si on lit la fin du livre de Joseph Bohr, on n'est pas très sûr que Eichmann, qui a réellement assisté à ce concert, était très convaincu. Mais apparemment pas indifférent quand même, mais ne voulant pas reconnaître que cette belle musique pouvait être produite par des juifs.
Alors, tout à l'heure, en fin d'interview, Claude, vous allez nous lire un extrait de ce livre, parce que le dénouement est aussi très très particulier. Revenons sur la composition. Vous avez parlé de cet événement, de cette création. Vous avez parlé de Gérard Linsolas. On connaît Gérard parce qu'il est fonctionnaire territorial au conseil départemental des Alpes de Haute-Provence, mais c'est une autre facette de Gérard Linsolas. En fait, là, c'est l'artiste qui s'exprime.
Ah, tout à fait. Alors, moi aussi, je le connaissais tout à fait autrement comme directeur des services culturels du département de développement culturel. Mais alors là, on l'a découvert avec surprise et bonheur et étonnement dans son véritable rôle d'artiste, artiste, auteur d'abord, puisqu'il est auteur de la pièce, acteur et metteur en scène. Et c'est absolument remarquable comme metteur en scène parce qu'il a réussi le pari difficile de mettre tout de suite dans l'ambiance de cette pièce et du contexte historique d'ailleurs de ce Requiem de Térésine, des choristes qui ne sont pas a priori des acteurs, des choristes et des chanteurs professionnels et des solistes. Et tout le monde, il a mené ses répétitions avec une telle maestria et avec une telle conviction aussi sur le sens profond de cette œuvre. Hein, on y reviendra justement de Libération, que tout le monde a été saisi dès la première répétition et ça ne s'est jamais démenti, y compris au concert. Le premier concert à Sainte-Tulle le 26 mars a bouleversé la salle, mais je crois que dans ce bouleversement de la salle, le bouleversement des choristes était pour quelque chose.
Et en même temps, la mobilisation forte de Gérard Linsolas dans cette action et qui joue un rôle aussi sur scène.
Non, il a été metteur en scène, mais il ne tient pas de rôle particulier dans la pièce. Non.
D'accord, il a tiré les ficelles.
Voilà,
très bien. Et avec brio. Et puis, il y a aussi quelqu'un qu'on connaît bien aussi, puisqu'il est originaire des Hautes-Alpes, c'est Jean-Emmanuel Jacquet qui dirige musicalement toute cette belle ambiance. Vous avez combien de choristes sur scène?
50.
C'est pas mal. Et les musiciens?
Il y a 7 musiciens, mais à Térésine, ça a été fait avec 2 pianos. Alors nous, c'est déjà un petit peu mieux, mais avec quand même des moyens du bord.
Hein. Oui, donc il y a quand même 57 voix et instruments à harmoniser.
Plus les solistes, plus les 4 solistes.
Et les 4 solistes, ça fait donc 61, si j'ai bien compté. Et c'est Jean-Emmanuel Jacquet qui s'est occupé de la direction musicale.
Voilà, alors il est directeur musical, et Jean-Emmanuel qu'on connaît par ailleurs, parce qu'il dirige le chœur des Alpes de Provence, mais il dirige aussi 2 chorales à Marseille importantes. Il est professeur au conservatoire de Gap, donc c'est quelqu'un maintenant d'assez connu par chez nous et entre Gap et Marseille, on va dire. Mais alors là, il a réussi le tour de force assez rare d'être à la fois l'excellent chef de chœur et d'orchestre qu'il est d'habitude, extrêmement pédagogue, extrêmement musicien, et en plus de ça, un acteur remarquable parce qu'il porte sur ses épaules aussi le poids du personnage principal de la pièce, qui est ce fameux chef de chœur et d'orchestre Raphaël Schechter, et là, il a le rôle le plus important.
Il fallait qu'il soit absolument habité par le personnage.
Absolument. Oui.
Puisque c'est lui qui le fait dans la vie aussi par rapport à vos choristes et vos musiciens.
Tout à fait. Et il est vraiment, vraiment.
Également à ses côtés, eh bien Hubert de Pourquery qui lui joue un rôle d'acteur aussi. C'est le doyen du ghetto.
C'est le doyen de la communauté juive du ghetto de Térésine, oui, tout à fait.
Donc il y a des affrontements intellectuels entre les deux ou pas?
Pas vraiment. Le drame se noue en fait entre le chef du camp, qui est joué par aussi un acteur du théâtre de chambre, qui est de Fort-Calquier, Benoît Charrier, qu'on connaît, qu'on voit aussi quelques fois, qui va très bien dans ce rôle d'ailleurs, vraiment. Et l'affrontement est entre ce commandant du camp et puis les autres personnages, en particulier bon le doyen qui essaie, comme le faisaient tous les doyens des communautés juives, de ménager un peu la chèvre et le chou pour protéger à la fois sa communauté contre les exactions nazies, et qui était constamment en train de négocier dans la négociation constante, quoi. Voilà, et toujours dans la terreur constante aussi, on peut imaginer. Et puis, ce qui est remarquable aussi, alors, c'est que les chanteurs, les solistes, qui ne sont pas a priori des acteurs, jouent remarquablement bien, en particulier le ténor, qui a un rôle particulier dans cette pièce, un jeune ténor, qui s'appelle Christopher Roche, et la soprano, Joëlle Michelini, qui a aussi un rôle totalement dramatique dans cette histoire, et ils assument pleinement leur rôle d'acteur en même temps que de chanteur.
On peut dire que chacun s'est pris au jeu ?
Ah oui.
Oui.
Mais même plus que ça.
Plus que ça. Ça se passe donc ce samedi, c'est à 21h. Attention, arrivez avant 21h, s'il vous plaît. Respectez les horaires de manière à pas déranger les gens qui, eux, ont respecté les horaires. J'arrête pas de le dire, mais malheureusement, il y a toujours 2-3 frondeurs qui viennent perturber les entrées des spectacles. Le Requiem du défi, Verdi dans le ghetto de Térésine, c'est donné à l'URSS, c'est une création. On va rappeler aussi que l'entrée est fixée à 15€ sur place. Il y a une prévente en ce moment à l'office de tourisme de Fort-Calquier, si je suis bien renseigné, à 12€. L'office de tourisme de Fort-Calquier, 04 92 75 10 02. 04 92 75 10 02. Et puis, comme ça se veut aussi une soirée plutôt pédagogique, l'entrée est entièrement gratuite pour les moins de 12 ans, de quoi aussi les initier à une sombre histoire et qui fait partie, hélas, de ce qu'on appelle l'histoire de l'humanité. Je ne sais pas si le mot humanité est vraiment bien collé par rapport à OSS, par exemple. Claude, vous avez envie tout à l'heure, et j'espère que c'est maintenu, de lire un extrait de ce texte qui a été repris par Gérard Linsola, c'est qui a été adapté pour pouvoir expliquer certaines choses sur le contexte de ce Requiem du défi et en même temps sur l'interprétation qui va être donnée à l'URSS.
Voilà, alors c'est un texte qui arrive tout à fait en fin de la pièce, quand la pièce est prête, quoi, elle a été montée, elle est prête, mais au moment de la donner, en fait c'est le moment où on vide le camp et où il n'y a presque plus personne parce que tous les convois sont déjà partis à Auschwitz. Et toute la pièce d'ailleurs se déroule sur fond de convois qui partent à Auschwitz, avec la menace que ça laisse peser sur les acteurs. Alors c'est le chef qui s'adresse à la fois à ses acteurs, à ses musiciens, à ses chanteurs et au public, et qui donne le sens, un petit peu la clé, qui est le sens même de toute cette œuvre et de ce film, et le sens même du Requiem d'ailleurs. Nous allons changer la fin, et je m'en excuse par avance. Verdi a composé ce Requiem pour un grand ami, Alessandro Manzoni, un grand poète, chantre de l'unité italienne face à l'occupation autrichienne. Un homme épris de vérité et de justice. Le Liberame que les Italiens ont entendu pour la première fois leur a rappelé leur combat mené pour leur propre libération. Voilà comme nous devrons chanter ce Liberame, non pas comme une plainte, mais comme un défi. Le cri ultime d'hommes et de femmes qui exigent leur liberté au nom des peuples à disposer d'eux-mêmes. Mais en nous souvenant que la liberté ne se donne pas, elle se prend. Et même si notre concert, notre dernier combat est vain, il n'est pas inutile, il doit être porteur d'espérance jusqu'à l'ultime seconde pour tous ceux qui l'entendront. J'espère que les prisonniers, enfin notre dernier public, comprendra le sens que nous donnerons à ce final.
Et la définition du mot défi qui est concerné et qui est contenu dans cette explication. Le Requiem du défi, c'est une création à l'URSS. C'est avec des comédiens, des solistes, des musiciens et le chœur Andromeda. Et c'est samedi 8 juillet à 21h, à ne pas rater si vous aimez évidemment la belle musique et aussi, tout simplement un événement historique et humain particulier dont vous venez de parler. Merci encore, Claude, d'avoir été mon invité. Vous serez sur scène, vous,
merci,
samedi
François.
Soir.
Oui, parmi les choristes.
On vous cherchera alors. À bientôt. Merci.
À bientôt. Merci François.